Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.
Bonsoir mesdames et messieurs, un plaisir de vous retrouver dans ces nouveaux numéros de YouJob. Nous allons encore parler d'une thématique assez spéciale et avec un invité qui est spécial pour nous. Il n'est pas avec nous dans ces studios, vous allez comprendre que c'est un appel que nous faisons. Alors lui, c'est un ingénieur informaticien, il est diplômé de la faculté de polytechnique de l'Unikin. Messieurs Pierre Cédine Zakuna, bonsoir.
Bonsoir.
Un plaisir de vous recevoir dans YouJob, la passerelle entre l'employeur et l'employé. Ici aussi, les cadres d'échange entre le professionnel. Alors, vous êtes professionnel, vous avez mis en place, vous êtes créateur d'un logiciel qui, en tout cas, devrait révolutionner beaucoup de choses. C'est un plaisir de vous recevoir dans YouJob.
Oui, le plaisir est partagé. Merci de m'avoir invité.
Vraiment. Alors, on parle de vous puisque vous avez développé un casque capable de contrôler les objets par la pensée humaine. Expliquez-nous un peu cette création, cette innovation.
Alors, ce que j'ai réalisé, c'est le prototype de ce qu'on appelle une interface cerveau-ordinateur. Donc, en gros, c'est un système qui permet de connecter le cerveau humain avec un dispositif externe. Ça peut être un ordinateur ou bien un autre dispositif électronique, de manière à ce que le cerveau soit en mesure de contrôler ou d'envoyer des commandes à ce dispositif et que le dispositif réagisse en conséquence, donc conformément à la volonté de l'utilisateur. Donc les interfaces cerveau-ordinateur sont actuellement en cours de développement dans plusieurs laboratoires à travers le monde et ça fait pratiquement 189 ans depuis qu'on a découvert l'activité neuroélectrique du cerveau humain. C'était en 1835 avec le Britannique Richard Cayton et aujourd'hui en 2024, personne n'a encore réussi à produire un prototype fini et commercialisable d'une interface cerveau-ordinateur. C'est comme ça que beaucoup de gens ne sont pas au courant de l'existence de systèmes pareils. Quand vous en parlez à quelqu'un, il a l'impression que c'est quelque chose de futuriste sorti tout droit d'un film de science-fiction et pourtant, ce sont des systèmes qui existent déjà, mais encore en cours de développement parce qu'ils sont extrêmement complexes à mettre en place du point de vue déjà mathématique et technique parce que vous avez plusieurs disciplines qui entrent là-dedans, donc c'est pas facile à mettre en œuvre et des millions de dollars sont investis actuellement dans le monde pour le développement de ce genre de système. Principalement, c'est pour pouvoir augmenter les capacités des personnes qui souffrent de déficience motrice, donc des personnes qui sont handicapés, qui sont incapables d'utiliser leurs mains ou leurs pieds, on arrive à contourner le système nerveux en créant une connexion directe entre le cerveau et par exemple un bras robotique ou un exosquelette. Donc actuellement, ces systèmes sont développés principalement à des fins médicales, mais ça peut aussi être utilisé pour d'autres fins qui sont, je dois l'avouer, vraiment dans un axe futuriste.
Alors, je pense que c'est vraiment innovant, mais comment ça fonctionne?
Alors, comment fonctionne une interface cerveau-ordinateur? Le prototype que j'ai conçu fonctionne de la manière suivante. D'abord, vous avez un casque que vous utilisez, donc un dispositif qui vous permet de capter justement l'activité électrique des neurones à l'intérieur du cerveau. Cette activité arrive quand même jusqu'à la surface du cerveau. C'est vrai, on capte de petites amplitudes, mais justement, le dispositif que vous utilisez a la possibilité d'amplifier ce signal. Il y a aussi la possibilité de placer directement des capteurs à l'intérieur du crâne, donc posés directement sur le cerveau, mais ce sont, comme vous pouvez l'imaginer, des opérations à haut risque. Donc pour l'instant, en ce qui me concerne, j'ai travaillé sur l'acquisition des signaux qui nous parviennent au niveau du crâne. Alors, ces signaux sont transmis en temps réel via une connexion Bluetooth, donc c'est sans fil, à un ordinateur. L'ordinateur reçoit en temps réel ces signaux et l'ordinateur commence par effectuer un filtrage de ces signaux. Il y a deux filtrages qu'on effectue, un filtrage temporel et ensuite un filtrage spatial. En fait, le filtrage sert à éliminer des signaux indésirables dans le signal que vous captez parce que notre corps n'a pas qu'une activité électrique au niveau du cerveau. Vous savez, le corps a d'autres activités électriques qui sont effectuées. Par exemple, le battement de cœur génère une certaine activité électrique qui peut être captée sur le corps. Lorsque vous clignez des yeux, ça génère aussi une microactivité électrique. Lorsque vous frottez, par exemple, le pied contre le sol, vous avez de l'électricité statique que vous générez par frottement. Donc, lorsqu'on capte les signaux électriques sur le crâne d'un individu, il y a de tout ça qui entre. Il n'y a pas seulement les signaux du cerveau, mais il y a aussi les signaux des autres activités électriques qui se passent en parallèle sur le corps. Et vous devez filtrer ce signal pour sélectionner précisément les signaux du cerveau que vous voulez étudier. Donc, ça passe par un étage de filtre. Et ensuite, après le filtrage, on effectue de la classification avec de l'intelligence artificielle. Donc, il faut que l'ordinateur soit en mesure de différencier les signaux en fonction de vos commandes mentales. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous êtes à l'état de repos, vous n'envoyez aucune commande, l'ordinateur doit être en mesure de reconnaître que là, je suis là, la personne est au repos. Quand vous effectuez une commande, par exemple pour envoyer le petit robot, la petite voiture robotique à gauche, l'ordinateur doit reconnaître cela. Quand vous décidez d'envoyer la petite voiture robotique à droite ou bien la faire avancer, donc l'ordinateur doit être en mesure de différencier le comportement de votre cerveau et d'y associer votre volonté et exécuter l'action que vous désirez. Donc là maintenant, on fait intervenir du génie logiciel ensuite pour pouvoir écrire du code qui va récupérer les résultats de cette classification de l'ordinateur et faire maintenant réagir le dispositif que vous contrôlez. Donc ça peut être dans le cas d'espèce, moi j'ai utilisé une petite voiture robotique, mais ça peut être n'importe quel autre système robotique que vous pouvez contrôler donc de cette manière. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les travaux que j'ai réalisés, je l'ai fait de manière wireless, donc sans fil. Le périphérique contrôlé se trouve dans un réseau et on passe des commandes. Donc l'ordinateur, une fois qu'il reconnaît la volonté de l'utilisateur, il envoie les commandes à travers une connexion réseau sans fil jusqu'au dispositif à contrôler. Et le dispositif réagit en fonction de ce qu'il reçoit comme instruction. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un réseau et que vous pouvez passer des commandes par réseau, donc c'est-à-dire que le dispositif peut bien se trouver à Tokyo au Japon, il peut se trouver à Paris en France ou bien à San Francisco aux États-Unis. Il va recevoir la commande via Internet. On peut router donc cette commande via Internet et vous pouvez très bien être à Kinshasa et contrôler par votre pensée un dispositif qui se trouve soit au Canada, soit en Afrique du Sud ou partout à travers le monde. Donc voilà un peu en gros comment ça fonctionne.
Ah oui, on voit comment c'est immense. Pierre Sidi, c'est depuis quand que vous avez commencé à travailler sur ces projets? Comment ça a commencé? C'est depuis quand que vous avez eu l'idée de travailler sur un projet aussi énorme?
Alors j'ai commencé à travailler sur ce projet, bon, c'était pour moi ce qui a constitué mon travail de fin d'études à la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa. J'ai commencé à travailler dessus en début 2022, j'ai commencé à me documenter, c'est quelque chose que je voulais déjà faire depuis bien avant, depuis que j'étais en troisième graduat, j'avais commencé à lire un tout petit peu dessus, mais sans aller vraiment en profondeur. Donc j'ai commencé à travailler, à me lancer vraiment dans ça vers début 2022 et puis après je suis vraiment entré un peu plus en profondeur. Donc j'ai commencé à lire, j'ai dû beaucoup lire avant d'être en mesure de réaliser mon propre prototype, non sans difficulté, je dois l'avouer, les difficultés ont été énormes, mais à chaque fois voilà, il a fallu se surpasser, trouver des solutions, de workaround comme on dit en anglais, pour pouvoir parvenir à un système qui soit fonctionnel. Donc aujourd'hui, je continue de travailler dessus. Donc là, on peut dire que ça fait maintenant 2 ans depuis que je travaille dans le domaine des interfaces cerveau-ordinateur.
Expliquez-nous un peu.
Entre le casque et le fauteuil qu'il contrôle. Qu'est-ce qui se passe? Si, par exemple, le fauteuil était en train d'avancer, ben, la personne va aller droit dans le mur, vous voyez? Donc, il y a cet aspect maintenant de sécurité. Il faut que le dispositif contrôlé puisse avoir un certain degré d'autonomie. Donc, on travaille maintenant sur un dispositif semi-autonome. Donc, ce que nous avons fait, nous sommes en train actuellement d'ajouter de l'intelligence artificielle maintenant sur le petit robot qui nous sert de dispositif pratique, de manière à ce que même lorsqu'il est contrôlé, quand il reçoit des ordres qui viennent de votre activité cérébrale, eh bien, il est quand même aussi à mesure de prendre des décisions autonomes. Vous lui dites « avance », il avance. Quand il voit un obstacle en face de lui, il vous prévient, il vous dit « attention, il y a un obstacle en face de moi ». Si vous ne réagissez pas pour l'arrêter, il va s'arrêter lui-même. Et quand il avance et qu'il perd la connexion, eh bien, il revient en arrière pour essayer de retrouver la connexion avec vous. Donc ça, ce sont certaines choses qu'on est en train d'ajouter pour rendre maintenant le robot lui aussi intelligent et créer une interaction entre la personne et le dispositif qu'il contrôle.
En tout cas, bravo pour les travaux que vous êtes en train d'effectuer, mais également l'évolution que ces travaux est en train de connaître. Surtout, bravo, hein, félicitations, parce que là, on pourra dire qu'il y a déjà une certaine reconnaissance internationale. Vous avez vu que ça a été publié jusqu'à cette échelle. Donc, c'est déjà quelque chose d'énorme. Donc, on peut dire qu'il y a des avancées. Vous avancez très bien et on peut espérer que cet appareil pourra être commercialisé prochainement.
Comme j'ai dit, en tout cas, il y a encore beaucoup de recherches à faire, en tout cas dans ce domaine-là, pour qu'on ait des prototypes commercialisables. Ce qu'on peut faire pour l'instant, et c'est un projet que nous portons avec le professeur Aimé Lai Kwakile, c'est un prof congolais qui a évolué en Italie, et nous travaillons avec lui de manière à pouvoir coupler notre dispositif avec des lits robotiques. Donc, le prof Aimé, il a travaillé sur des lits robotiques pendant la COVID. Nous, on a travaillé sur une interface cerveau-ordinateur. Donc, on a décidé de s'associer pour mettre ces deux dispositifs ensemble. Et on souhaite implémenter un premier centre de neurophysio-réhabilitation à Kinshasa. Donc, ce sera le premier du genre en Afrique subsaharienne. De manière à ce que... Voilà, le centre servira aux personnes qui sont alitées. Donc, des personnes qui restent sur un lit pendant longtemps. Les médecins nous disent que ça crée à la longue des problèmes, des dysfonctionnements dans les systèmes humains. Donc, par exemple, la circulation sanguine et autres activités du corps sont affectées. Alors, si la personne est capable de pouvoir contrôler le lit robotique par l'activité de son cerveau, donc par sa pensée, eh bien, il peut donner un ordre au lit robotique de prendre la position debout, vous voyez. Donc, la personne sera debout. Donc, ça va simuler une position debout. Évidemment, la personne sera bien attachée au lit, de manière à ce qu'il ne tombe pas. Et donc là, ça permet de pouvoir le mettre dans une position normale pour les fonctions vitales et ça permet d'éviter les complications qui sont dues au fait que quelqu'un reste pendant des mois et des mois sur un lit sans bouger.
Énorme. Alors ça, c'est ce qu'il faut attendre en premier. Donc, c'est ce qui pourra être réalisable le en premier.
Oui, ça, c'est réalisable dans un délai raisonnable. Dans un délai raisonnable, en tout cas, c'est vraiment réalisable. Mais comme vous le savez, nous sommes à la recherche du financement nécessaire pour mettre en place ce genre de projet.
Mesdames et messieurs, je reçois ce soir Pierre Sedi Nzakuna. Il est ingénieur civil informaticien. Alors, il nous parle bien sûr de ses travaux, en tout cas avec son appareil cérébro qui certainement va révolutionner beaucoup de choses. Il a dit qu'il n'est pas le seul à effectuer des travaux dans ces sens-là, mais on le soutient et on espère qu'il sera le premier à aller plus loin. ça, c'est en tout cas notre souhait. Alors, bien sûr, on lui laisse encore vraiment beaucoup de temps d'exprimer. Vous allez remarquer que je lui laisse parler, c'est parce que je voudrais vraiment qu'on puisse comprendre et qu'il s'exprime par rapport à son innovation. Et bien sûr, on fait un effort hein, qu'il le fasse en des termes un peu plus simples, moins techniques, pour que nos auditeurs comprennent. Vous imaginez, c'est pas tout le monde qui est ingénieur informaticien. Et ce n'est pas tout le monde qui maîtrise les langages du génie informatique. Alors, c'est la question certainement que beaucoup de personnes se poseraient. D'où est venue cette idée?
Ok, je crois que je l'ai dit parce que je me suis vraiment étalé en parlant. Moi, je me suis inspiré, comme j'ai dit, dès mon enfance, j'ai été fasciné par ce dessin animé-là. Ça me paraissait futuriste, quoi. Donc, tu portes quelque chose sur ta tête, tu penses très fort et puis tu peux envoyer des messages, des pensées à quelqu'un d'autre qui est quelque part ailleurs dans le monde. Donc, c'est ce que faisait le professeur Charles Xavier dans le dessin animé X-Men Evolution. Et comme j'ai dit, j'ai été fasciné. Déjà à partir de la troisième graduée, j'ai découvert en ce moment-là qu'il y avait des personnes à travers le monde qui travaillaient sur ça. Ça m'a fasciné et j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine-là progressivement. Pour l'instant, ce qu'il faut dire, c'est que les interfaces cerveau-ordinateur ne permettent pas encore de faire communiquer deux êtres humains, donc de mes pensées à vos pensées. Ça reste encore de la magie, c'est de la télépathie. Mais avec les avancées qu'Elon Musk est en train de faire, ça peut arriver bien plus vite qu'on ne le pense.
Alors, est-ce que vous vous êtes quand même retrouvé avec assez d'outils pour parvenir à réaliser ces travaux au départ?
Alors, vous savez que le plus grand problème de la recherche scientifique au Congo et plus généralement dans les pays africains, c'est le financement. Parce que quand vous voulez travailler sur des systèmes comme ça, vous allez avec vos propres fonds, vos propres économies. Et comme je dis, les autres chercheurs à travers le monde, c'est des millions de dollars qui sont investis. Donc, au final, il y a un déséquilibre tellement, tellement grand. Mais quand vous avez beaucoup de volonté, vous pouvez arriver à produire quelque chose de minimum. Donc, la première difficulté à laquelle on a été confronté, c'est effectivement le financement. Moi, le casque que j'ai utilisé pour mettre en place mon système, c'est un casque basique. Donc, c'est un casque basique. Il y a des casques beaucoup plus évolués que ça pour une recherche de pointe, mais qui coûtent extrêmement, extrêmement cher. Donc, c'est ça la première difficulté qu'on a eue et qu'on continue d'avoir, avec laquelle on se bat.
En dehors de ça, en dehors donc de difficultés financières, sur le plan technique, tout est bon?
Alors, sur le plan technique, le premier problème qu'on avait eu, c'était de se dire, on va faire une interface cerveau-ordinateur asynchrone endogène. J'explique. Asynchrone, ça veut dire que c'est vous qui restez le maître. Donc, parce que jusque-là, la plupart des recherches qui avaient été faites et qui ont été publiées à ce jour se sont focalisées sur des interfaces cerveau-ordinateur synchrones. Synchrone, c'est-à-dire que c'est l'ordinateur qui te dit, bon, maintenant, pense par exemple à un mouvement de gauche. Et moi, je vais essayer de reconnaître que tu as effectivement pensé à un mouvement de gauche et je vais envoyer le dispositif robotique à gauche. Vous voyez, donc là, vous n'êtes pas libre de vos décisions, vous n'êtes pas libre de choisir. Donc, c'est l'ordinateur qui vous dit à quoi vous devez penser. Bon, et puis après, vous y pensez et puis l'ordinateur essaie de reconnaître avec un certain degré de précision. Donc, la première des choses, c'était mettre en place une interface cerveau-ordinateur asynchrone dans laquelle l'utilisateur reste maître. Donc, il est souverain de ses décisions. Je décide, par exemple, d'envoyer mon robot à gauche, soit à droite, soit de le laisser avancer tout droit. Et c'est à l'ordinateur maintenant d'être en mesure d'identifier en temps réel quelle est mon intention.
Donc, ça c'était...
Pardon ?
Et ça a été une réussite.
Oui, oui, ça a été une réussite. Et la deuxième difficulté maintenant, c'est il faut mettre en place cette interface asynchrone de manière endogène. Endogène, ça signifie quoi? Endogène, ça signifie que vous avez beaucoup d'interfaces cerveau-ordinateur qui ont été développées de manière exogène. Exogène, ça veut dire ce n'est pas la pensée qui émet une action, donc qui émet une action, si je peux le dire, c'est plutôt une stimulation extérieure. C'est-à-dire que on vous place par exemple en face d'un écran. Sur cet écran-là, il y a par exemple quatre flèches. Une flèche du dessus, une flèche en bas, une flèche qui va à gauche, une autre qui va à droite, et ces quatre flèches clignotent à des fréquences différentes. Peut-être que celle d'au-dessus clignote à 8 Hz, celle qui va à droite à 12 Hz, celle qui va en bas à 40 Hz, celle qui va à gauche peut-être à 60 Hz. Et quand vous regardez, quand vous fixez votre regard, eh ben, ça crée une réaction dans votre cerveau. La zone du cerveau qui traite l'information visuelle, elle est à l'arrière de la tête. Donc, ça arrive jusqu'à l'arrière de la tête. Et voilà, le cerveau a des réactions différentes selon que vous fixez la flèche qui clignote vers la gauche ou soit l'autre qui clignote plus vite vers la droite. Donc, le cerveau réagit différemment. Et maintenant, avec un casque, on prélève ces différentes réactions du cerveau et puis on va contrôler le robot pour qu'il aille soit à gauche, soit à droite. Donc là, la stimulation est extérieure. Ce n'est pas quelque chose qui est généré par vous-même, comme si vous fermez les yeux, vous vous concentrez à penser à quelque chose. Vous voyez, là, vous êtes obligé de regarder un écran pour avoir une stimulation de votre cerveau et après on recueille cette stimulation et puis on contrôle un dispositif. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un système exogène. Donc nous, on a travaillé sur un système endogène. Dans un système endogène, maintenant le défi ici, c'est que la stimulation doit venir de vous. C'est-à-dire que c'est vous qui devez être en mesure de produire une activité cérébrale assez intense pour qu'elle soit reconnue, bien classifiée par l'ordinateur. Parce que dans le système exogène, comme je disais, en fait, vous ne faites aucun effort. Vous vous contentez de fixer une flèche qui clignote sur l'écran et votre cerveau réagit automatiquement. Donc, vous ne provoquez pas la réaction, c'est automatique. Parce que votre œil fixe est quelque chose qui clignote à une certaine vitesse. Mais maintenant ici, dans le système endogène, donc vous pouvez fermer les yeux, vous vous concentrez à produire une pensée. Donc, si je peux le dire, vous vous concentrez à produire une activité que le cerveau va être de, plutôt que l'ordinateur devra être en mesure de reconnaître. Ça, c'est maintenant un système endogène. Maintenant, il faut combiner les deux. Asynchrone, endogène. Je dois dire que ça m'a quand même compliqué, c'était pas facile, mais après, après plusieurs mois de recherche, de nuit blanche, ainsi de suite, on y est arrivé. Ouais.
Et je vois donc à côté des difficultés financières, il y a également ces difficultés techniques.
Technique, ouais.
C'est logique parce que c'est vraiment pas facile. Moi, je ne vois qu'en tout cas du chinois. À côté de tout ça, il y a également l'environnement. On connaît qu'on n'est pas dans un pays vraiment high-tech. L'environnement, c'est également quelque chose. Hein. Je ne sais pas, est-ce que l'environnement vous a aidé ou vous êtes déjà retrouvé dans un environnement où il y avait de la facilité. Quand je parle d'environnement, je vois l'université, je vois aussi la famille, je vois les amis, je vois tout ce qu'il y avait autour de vous.
Oui, alors l'environnement, c'est un facteur clé, un facteur décisif, effectivement. C'est vrai que dans notre pays, on a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup d'efforts à faire pour soutenir la recherche scientifique. Mais il y a des personnes, il y a des individus qui nous encouragent. Et à commencer par mon directeur qui avait dirigé mon mémoire de fin d'études, le prof Kouti. C'est lui qui a carrément payé les matériels dont on avait besoin. Donc le petit robot là et tout, c'est lui. Donc c'est quelqu'un qui est prêt à mettre de son argent juste pour la recherche. C'est un passionné de la recherche scientifique. Ouais. Il a eu affaire avec d'autres étudiants. Quand on a besoin de matériel, il met son argent, même si ça coûte quand même. Donc c'était déjà un premier encouragement pour moi. Et il a continué à m'encourager, même quand j'avais des difficultés, en cherchant des publications à gauche, à droite. Tiens, lis ça, regarde comment ils ont fait. Essaye de faire mieux que eux et ainsi de suite. Et je peux dire que la faculté polytechnique, c'est un environnement qui est motivant parce que vous y trouvez des jeunes talentueux qui font des choses, vous dites waouh, ils font ça. Mais c'est juste peut-être que ils ne sont pas assez médiatisés comme moi je l'ai été, mais elle regorge de beaucoup de talents. Je pense à Gilbert Mboma, je pense à Odilon Baningi, je pense à Fidel Tsadi, des jeunes qui font des choses extraordinaires à la faculté et ça vous motive aussi, vous dites ouais, donc on a le level, on a le niveau pour faire des choses formidables, quoi. Et évidemment, la famille aussi y a été pour beaucoup, m'a beaucoup encouragé à continuer de croire en moi. Et y a, c'est tous ces facteurs-là qui m'ont permis de gagner en confiance et d'arriver jusqu'au bout de cette réalisation.
Parlant d'ailleurs de cette médiatisation, vous l'avez soulevé, vous avez vraiment été médiatisé, je vais dire même surmédiatisé, je ne sais pas. Alors, c'est parti d'un travail de fin d'études. Généralement, au Congo, on ne tient pas vraiment compte hein, de l'importance des travaux de fin de cycle ou de fin d'études. Mais comment c'est parti d'un travail, d'un simple travail de fin d'études jusqu'à devenir une information à la une de médias?
Oui, alors, ce qui a été peut-être le catalyseur, c'est le fait que, comme vous dites, c'est une innovation en RDC, je peux le dire comme ceci, parce que comme je dis, ailleurs, ça se fait déjà dans des laboratoires, vous avez des chercheurs qui sont internés en train de faire des recherches, mais en RDC, vous n'avez pas un endroit où il y a des gens qui font de la recherche sur les interfaces cerveau-ordinateur. Du coup, ça a été pour les gens une découverte, quoi. Waouh, il y a ce genre de choses qui existent, en plus c'est un Congolais qui arrive à les faire. Waouh, c'est extraordinaire, c'est comme ça que les Congolais se sont émerveillés de ça, et puis après, ça a pris la dimension que ça a pris. J'ai été invité à faire des démonstrations, à faire des présentations, à expliquer comment ça fonctionne, et puis puis voilà, pour moi c'était une manière aussi de dire que, écoutez, on est en RDC, on évolue dans les conditions dans lesquelles on évolue, on n'a peut-être pas les mêmes facilités qu'il y a ailleurs, mais on est en mesure de faire du bon travail. Et si l'accompagnement adéquat vient, je ne parle pas que pour moi, je parle pour tous les autres jeunes qui se donnent à des solutions de haute technologie, eh ben, on est capable de produire des solutions en local, en RDC.
Mais il faut quand même qu'on se les dise, oui, les Congolais étaient, je vais dire, fiers, et c'est ce qui a causé ça, mais il y a eu des médias étrangers un peu partout dans le monde qui ont parlé de vos travaux. Vous avez dit que ça se fait déjà, il y en a d'autres qui le font aussi, oui, mais on va dire qu'il y a eu beaucoup de médias qui ont parlé de ça, parce qu'on va dire qu'il y avait quelque chose de particulier.
Oui, en effet, parce que le premier média qui m'a contacté, c'était un média russe, Sputnik. Ensuite, on l'a fait avec La Voix de l'Amérique. Ensuite, on l'a fait avec un reportage de CGTN, la chaîne chinoise. Ensuite, ensuite, je n'ai plus contrôlé l'information. J'ai vu des reportages ça et là en France. En fait, comme vous dites, oui, ça a traversé les frontières parce que même dans ces pays-là, je dois vous le dire, il y a des gens qui ne savent pas que ces systèmes existent. Pourquoi ? Parce que c'est tellement dans les laboratoires que les gens ne sont pas informés. Vous voyez ? Donc, moi, j'étais en contact. Les gens m'ont écrit sur Facebook. Ceux qui m'écrivent, je réponds, je lis. Il y a un Congolais qui vit en France qui m'a écrit. Il m'a dit, écoute, ton système, j'ai montré la vidéo à un vieux, ici un blanc, qui souffre justement de paralysie. Il a regardé, il était émerveillé. Il a dit, waouh, ça doit coûter cher. Moi, je me suis dit, waouh, pourtant, la France, c'est le pays en Europe où ce genre de recherche est le plus avancé. Donc, même là, les gens ne savent pas parce que c'est encore dans les labos, vous voyez. Donc, c'est un domaine qui n'est pas encore disponible pour le grand public, mais avec l'avancée fulgurante de l'intelligence artificielle, eh ben, ça va l'être peut-être beaucoup plus vite qu'on le pense, ouais.
Ça, on l'espère en tout cas, on l'espère, on le veut, et surtout pour notre pays. Mais qu'est-ce que vous pensez de votre domaine de recherche ici? Alors, vous avez avancé énormément, mais est-ce qu'on a un certain retard? Est-ce qu'il y a également d'autres copains qui avancent comme vous? Il y a encore vraiment beaucoup de travail qu'il faut faire. Comment ça se passe un peu dans ces secteurs-là, dans votre domaine?
Alors, dans mon domaine, la recherche scientifique, plus précisément, puisque moi, je suis en système embarqué intelligence artificielle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de défis. Il y a des jeunes que je connais qui font des petits trucs là-dedans. OK, c'est bien. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. En fait, ce que nous, on peut faire, et ce que moi, je trouve d'ailleurs intéressant dans ce 21e siècle, c'est que l'intelligence artificielle vous permet de rattraper un grand retard. Vous savez, à l'époque, il n'était pas facile de rattraper un retard technologique, mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut se rattraper beaucoup plus vite. Moi, quand je regarde mon système et d'autres systèmes parallèles qui peuvent émaner de ça, parce que je travaille aussi sur des systèmes parallèles, je me dis, par exemple, on peut transformer le quotidien de nos militaires congolais qui sont blessés au front, vous voyez. Au lieu qu'ils restent paralysés toute leur vie, ils peuvent utiliser des systèmes robotiques, ils peuvent utiliser ce qu'on appelle des exosquelettes robotiques pour retrouver de la mobilité, continuer à travailler. Et voilà, donc avec ça, nous, on peut... C'est comme si on faisait un bond, voilà... C'est comme si on rattrapait peut-être 20 ans de retard sur la manière dont les choses se passent actuellement. Donc, on a la possibilité d'aller de l'avant de manière quand même assez rapide. Maintenant, il faut que l'écosystème dans son ensemble puisse le permettre.
Alors, vous l'avez dit, l'écosystème, en tout cas, ne le permet pas encore correctement. Alors, vous avez fait parler les médias du monde entier. Est-ce que vous avez eu un certain accompagnement des autorités? Est-ce qu'on vous a approché aussi?
Alors, comme je dis, vous savez que la recherche scientifique dans le Congo, elle est ce qu'elle est. On a encore beaucoup de travail à faire. Du moins, j'ai été reçu par Son Excellence, le ministre de la Recherche scientifique, dans le gouvernement sortant, puisqu'il va y avoir un nouveau gouvernement. Et Son Excellence qui a lancé un programme que je félicite d'ailleurs, le programme, le conclave du génie scientifique congolais. Au moins, ça a été une vitrine où on est allé, où on s'est présenté, où on a aussi été parmi les primés. Et c'est, ça a été une vitrine pour présenter aussi plusieurs autres travaux des scientifiques congolais au monde, donc aux bailleurs de fonds, aux aux personnes qui ont la possibilité, aux fonds de recherche, voilà, qui ont la possibilité de financer la recherche qui est faite là. Donc, il y a un programme d'accompagnement qui est prévu, qui a même été budgétisé dans la ligne budgétaire de l'année 2024 pour les chercheurs qui ont participé à ce conclave. Donc, on attend, on espère qu'il y aura des retombées positives par rapport à la suite de tout ça. Voilà, il faut qu'il y ait quand même ce qu'on déplore chez nous, c'est qu'il y a des projets qui commencent mais qui ne finissent pas parce que le principe de continuité de l'État voilà, n'est pas tellement appliqué chez nous, mais on espère que cette fois-ci ça va être appliqué.
Alors on va chiter Pierre Sédi, un plaisir en tout cas de vous recevoir dans YouTube, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez partout en RDC, en dehors du pays, partout à travers le monde, en échange ce soir. On a eu en tout cas le temps d'échanger avec lui, avec ses travaux qu'il mène. Mais alors qu'est-ce que vous pensez faire en ce moment, qu'est-ce que vous faites en ce moment et quels sont le projet à venir à court terme et à long terme, les ambitions?
Alors, comme je dis, je suis en train de travailler sur des systèmes parallèles, hein. C'est-à-dire que quand vous avez une idée, généralement, vous n'avez pas qu'une seule idée, il y a d'autres idées qui vous viennent. Ah, on peut aussi faire comme ceci, on peut faire comme cela. Donc, je travaille sur principalement des systèmes d'aide aux personnes handicapées. Donc là, je suis en train de travailler aussi parallèlement sur un moyen beaucoup plus simple qu'une interface cerveau-machine, en tout cas un moyen de pouvoir aider des personnes handicapées à pouvoir utiliser un ordinateur sans avoir besoin de le toucher. Donc je suis en train de travailler, je peux dire à 90% déjà. Wow. Je suis en train de travailler sur ça et je me dis que c'est moi, quand je fais ça, je pense beaucoup plus en fait aux enfants, parce que vous avez des enfants qui sont nés avec des malformations, ils sont handicapés des mains. Ok, bon, les personnes qui sont handicapées des pieds peuvent encore se débrouiller, comme on le voit dans les coins des rues, en vendant des bonbons, des biscuits. Mais quand vous avez un enfant qui est handicapé des mains, comment il fait pour aller à l'école? Il va pas aller à l'école. Comment il fait pour toucher ou apprendre certains travaux? Eh bien, il sera toute sa vie entièrement dépendant des autres. Mais s'il a la possibilité d'utiliser un ordinateur, alors il peut aller sur Internet, lire des cours, se former, vous voyez, et commencer à faire des petites tâches, par exemple envoyer des mails. Et on peut lui donner, pourquoi pas, un petit job de réception où il peut envoyer des mails et faire manipuler un ordinateur de manière basique. C'est vraiment l'objectif que j'ai pour aider ces personnes à gagner en autonomie, en confiance en soi. Et ça permet d'atteindre les objectifs, quelques objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies, notamment l'accès à l'éducation, la réduction des inégalités, et ainsi de suite.
On espère que ça va aboutir parfaitement. On arrive à la fin. Un tout dernier mot à dire à nos auditeurs.
Alors, merci aux auditeurs de UFM qui nous ont suivi ce soir. Et moi, j'aimerais simplement dire à la jeunesse congolaise, écoutez les amis, c'est vrai qu'on évolue dans un contexte difficile, mais il ne faut pas baisser les bras, parce que plus le combat est difficile, plus la victoire sera éclatante. J'ai beaucoup souffert pour arriver à ces résultats. Je travaillais quand je rentrais le soir, même dans les bus, où je me dis, au lieu de perdre 2 heures dans un embouteillage, ben, j'ouvre mon ordinateur, je lis, je travaille, j'essaie de bouger ce qui ne va pas. Et voilà, ça demande un certain degré de sacrifice. Vous savez, c'est pas dans un claquement de, par un claquement de doigts ou par hasard qu'on arrive au niveau où on est arrivé. Donc, soyez travailleurs. Là, je m'adresse vraiment aux jeunes Congolais. Ne soyez pas dans la distraction. Il y a beaucoup de distractions de nos jours. Quand vous regardez ce qui se passe sur TikTok, sur différents réseaux sociaux, il y a beaucoup de distractions. Mais vous savez, la jeunesse, c'est le Congo de demain. Donc, le pays compte sur nous. Le pays compte sur nous pour que demain, on puisse aussi rivaliser sur la scène internationale et non qu'on continue d'être dépendant des autres. Donc, capitalisons sur les capacités que Dieu nous a données et je crois qu'on est capable de construire un pays plus beau qu'avant, comme nous le chantons dans l'hymne.
De belles paroles, de paroles de motivation. J'espère que ça va réveiller la conscience de quelqu'un, d'un auditeur qui nous suit ce soir. Merci beaucoup Pierre Sédi, pas à Kinshasa, mais a quand même accepté notre invitation de l'autre côté du monde, là où vous êtes en tout cas. Bonne réussite de vos travaux. UFM vous en remercie. donc un plaisir. On se retrouve.
Oui, merci.
Voilà. Fidèles auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet, un nouvel invité. Portez-vous bien, restez à l'écoute de la langue 4.7.
De fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la U-Job. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.